bonjour pour le rendez-vous d'Haïti et des Américains.
Merci Gilles Moreau. Il est 8h10 à La Havane. Des prix qui flambent, un dollar au marché noir toujours plus cher et des pénuries qui durent. Le contre-coup de la réforme monétaire est rude. À Cuba, c'est notre dossier du jour. Nous irons aussi à Port-au-Prince constater les conséquences des crises politiques et sécuritaires sur les écoliers du pays. Les États-Unis glacés par un froid polaire et la mort de Johnny Pacheco, légende de la salsa également au programme. Bienvenue à tous. Promise pendant des années, repoussée et enfin mise en place. La grande réforme monétaire est en vigueur depuis début janvier à Cuba. Le peso convertible a disparu, ne reste que le peso cubain. L'objectif était de donner un nouvel élan à l'économie de l'île, étouffée par les sanctions privées de ses touristes, du fait bien sûr du Covid. Mais les effets sont encore loin de se faire ressentir. Au contraire, comme l'a constaté à La Havane, Domiti Pierron.
La tâche est immense et elle a pour nom « ordenamiento », comme pour mettre de l'ordre dans l'économie cubaine. Avec l'unification monétaire lancée en janvier, le CUC a presque déjà disparu de la circulation. Le taux de change a été unifié, 24 pesos cubains valent 1 dollar et les salaires d'État ont été augmentés. Le salaire minimum est désormais à 2100 pesos, soit 70 euros. Yosvani, par exemple, touche à présent quelques 3000 pesos cubains, une centaine d'euros. C'est deux fois plus que l'année dernière pour se cuisiner dans un restaurant d'État. Mais voilà, il sort tout juste du marché et ses courses lui coûtent bien plus cher désormais.
Comme les salaires ont augmenté, le prix des produits a aussi augmenté. Mais pour moi, ce n'est pas logique parce que les prix sont trop élevés. Je vous donne un exemple, mon salaire a été multiplié par 2, mais les prix ont été multipliés par 3 ou 4. Donc il y a un problème.
Et même si l'État impose une limite et un contrôle sur les prix, il continue de grimper. À quelques pas du marché, une bodega. Ici, les Cubains viennent s'approvisionner en produits de base, subventionnés via leur carnet de rationnement. Les prix dérisoires de la bodega ont eux aussi augmenté, car l'État, à travers cette grande réforme de l'économie cubaine, entend aussi éliminer progressivement certaines subventions et gratuités.
Le pain avant était à 10 centimes, maintenant il coûte 1 peso.
Maritza González sort de la bodega avec son pain quotidien et un petit sachet de viande hachée. Même si cela perturbe son budget de ménagère, elle considère que ces nouveaux prix sont plus logiques, car alignés sur l'économie réelle. Mais pour d'autres, comme les retraités, qui ne touchent que 1520 pesos, soit 50 euros, ces changements sont significatifs. Certains n'ont d'ailleurs déjà plus les moyens de manger dans les cantines sociales, dont les prix ont aussi augmenté. Maritza a confiance dans cette réforme de l'État et considère que si à terme le carnet de rationnement est voué à disparaître, le gouvernement cubain protégera les plus vulnérables.
Ce qu'a expliqué le gouvernement, c'est que tant que durerait cette situation de pénurie, l'approvisionnement avec le carnet de rationnement continuera à des prix subventionnés. Le problème, c'est l'offre des magasins qui a beaucoup diminué. Il manque vraiment de produits et il faut faire la queue.
Depuis plus d'un an, les Cubains vivent effectivement dans des files d'attente toujours plus longues du fait des pénuries. En 2020, Cuba a réduit de 30% ses importations par manque de devises. Alors pour financer ces produits alimentaires importés, l'État a mis en place des magasins uniquement accessibles en monnaie forte comme le dollar. En unifiant ces monnaies, certains économistes estiment que Cuba a surévalué le peso par rapport au dollar. Et comme le circuit officiel ne permet pas d'en acheter, il faut passer par le marché noir où le taux de change est incontrôlé.
Avant, je dépensais 30 pesos pour acheter 1 dollar. Maintenant, je dois dépenser 45 pesos.
Julian Picantz gère un restaurant qui ne vend actuellement qu'à emporter. La matière première est la majorité des produits qu'il propose à la vente. Il doit les acheter dans les magasins en devises.
Si je veux acheter des produits comme des sodas ou de la bière, je dois les acheter en dollars. Mais pour cela, je dois d'abord acquérir des dollars au marché noir, parce que c'est impossible d'en acheter sur le marché officiel. Mais quand j'achète des dollars au marché noir, je suis obligé d'augmenter mes prix pour pouvoir rentrer dans mes frais à hauteur de ce que j'ai déboursé pour acquérir ces dollars et m'assurer que j'aurai aussi assez d'argent pour pouvoir en acheter à nouveau. Et comme le dollar continue d'augmenter, je dois répercuter cette hausse sur mes prix, qui deviennent trop élevés par rapport au salaire de mes clients.
Pour l'instant, la réforme monétaire bénéficie donc surtout aux revendeurs de dollars au marché noir et semble créer une société à deux vitesses entre ceux qui dépendent des aides de l'État qui sont donc réduites et ceux qui ont accès au dollar. Domiti Piron, La Havane, RFI.
Et la semaine dernière, plus de 650 Cubains, artistes, universitaires, entrepreneurs ont écrit à Joe Biden pour réclamer une levée de l'embargo américain sur Cuba. Hier, une autre lettre ouverte adressée au président des États-Unis demandait celle-là qu'avant toute normalisation des relations entre Washington et La Havane, la répression politique cesse à Cuba. Une missive signée cette fois-ci là par plus de 300 personnes. RFI, the world at your doorstep. Joe Biden, qui est attendu aujourd'hui dans le Wisconsin, premier déplacement officiel du président américain depuis son entrée en fonction. La politique commence aujourd'hui et c'est possible puisque le cas Trump est soldé, enfin presque. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
L'ex-président a quitté au Sénat ce week-end, mais Donald Trump pourrait faire face à une commission, nous apprend la presse.
Oui, deux jours après l'acquittement de Donald Trump, les événements du 6 janvier au Capitole continuent d'agiter la sphère politique aux États-Unis. Ce lundi, la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé la future création d'une commission indépendante d'enquête, annonce le Washington Post. Elle sera chargée d'enquêter sur ce qui a conduit une foule à prendre d'assaut le temple de la démocratie américaine.
Une commission similaire à celle qui avait étudié les attentats du 11 septembre 2001, Romain.
Oui, ce qui avait pris 15 mois, rappelle le quotidien. Une initiative qui aurait le soutien d'une partie des élus républicains, explique le quotidien. Même le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a pourtant voté en faveur de l'acquittement de Donald Trump, y est favorable. De nombreuses questions restent sans réponse, estiment les élus, qui espèrent qu'avec cette commission, toute la lumière sera faite.
Les États-Unis saisis par une vague de froid polaire sans précédent, pluie verglaçante, chute de neige. Des millions d'Américains sont privés actuellement d'électricité, y compris au sud du pays, comme au Texas, où se trouve Tom Arms.
Les enfants en tenue de ski jouent dans la neige. Les parents ne peuvent pas prendre la route pour aller travailler.
C'est incroyable, cette météo ici. Ça arrive une fois tous les 30 ans. De temps en temps, il neige un peu, mais jamais comme ça. Je travaille dans le centre de Houston, donc il n'y a aucun moyen pour moi d'y aller. C'est quelque chose auquel les Texans ne sont pas habitués.
Comme Michel, Bill et Noah, ce lundi, plus de 2,5 millions de Texans se retrouvaient sans électricité, et ce, dès 2 heures du matin, un peu partout, de Dallas jusqu'à la frontière mexicaine, à Houston. Deux centres d'hébergement d'urgence pour sans domicile fixe ont vite atteint leur capacité maximum de 500 personnes et se sont retrouvés également sans électricité. Les fournisseurs d'énergie ont mis en place des coupures tournantes pour soulager leur réseau. Mais les autorités préviennent qu'il ne faut pas attendre que l'électricité revienne avant la fin de la journée, si ce n'est plus tard, alors qu'il fait moins 10 degrés dehors. Les températures vont continuer à baisser jusqu'à ce mardi matin. Et mercredi, les météorologues annoncent déjà une nouvelle vague de froid. Thomas Arms, Houston, RFI.
Et outre le Texas, Romain Lemaresquier, 25 États en sont concernés par ce phénomène.
Oui, une tempête hivernale qui a déjà fait plusieurs victimes, annonce USA Today. 10 selon l'AFP. Plus de 150 millions d'Américains vivent dans un endroit où des avis de grand froid, de pluie verglaçante ou des plans de vigilance tempête de neige ont été mis en place, a annoncé ce mardi le NWS, le Service Météorologique National. Une tempête qui s'étend sur plus de 3000 km allant du Texas au Maine. À l'heure actuelle, plus de 4 millions de Texans sont sans électricité. Des centaines de records locaux de températures négatives ont été battus. Détaille également le quotidien.
Une tempête qui pose également des problèmes de logistique, Romain, dans la campagne de vaccination.
Et oui, c'est ce qu'explique USA Today dans un autre article. Des problèmes en termes d'acheminement, surtout pour la Floride et le Texas, mais également des problèmes de conservation à cause des coupures de courant, sachant que les vaccins doivent être conservés à très basse température. Une situation qui risque de durer puisque ce froid polaire devrait se prolonger encore quelques jours.
Et des conséquences qui se font ressentir aussi au Mexique, où près de 5 millions de personnes dans le nord du pays sont là également sans courant.
Oui, des coupures qui ont débuté il y a maintenant plus de 24 heures et qui vont encore durer, prévient le Centre national mexicain de contrôle de l'énergie dans les pages d'El Universal. Ces coupures touchent principalement le nord du pays, mais même la ville de Puebla est concernée. Selon la Commission fédérale de l'électricité, ces coupures sont principalement dues à une augmentation de la demande d'énergie aux États-Unis, sachant que les deux pays sont interconnectés en ce qui concerne l'électricité et le gaz, détaille le quotidien Milenio. Les autorités espèrent un retour rapide à la normale. À l'heure actuelle, 55% des foyers concernés ont de nouveau du courant, toujours selon Milenio.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, où le carnaval tentera de faire oublier un peu aujourd'hui le lourd contexte politique et sécuritaire du moment. Le mandat du président Moïse contestait la multiplication des enlèvements. Dimanche encore, des milliers de personnes ont manifesté contre un éventuel retour de la dictature. Un climat qui pèse directement, Amélie Baron, sur l'éducation des enfants.
Ces deux dernières semaines, il a été rare, sinon même impossible, de croiser un enfant en uniforme dans les rues de Port-au-Prince. Signe du climat sécuritaire précaire, les établissements scolaires gardent porte close. Comme en témoigne Rudy Edmé, responsable de l'association des écoles privées, l'éducation déjà mise à mal par l'insécurité liée aux gangs est aujourd'hui pénalisée par l'instabilité politique.
Il y avait déjà ce problème de kidnapping d'enfants qui avait posé quelques difficultés aux parents, etc. Mais la semaine d'avant, le 7, donc il y a eu quelques frissons sur ce qui allait se passer. Et finalement, après le 7, les gens se sont dit qu'il fallait attendre un petit peu, voir si tout était calme avant de recommencer l'école. Donc là, on est fermé depuis quelques temps, depuis donc avant le 7. Et comme toujours, l'impact est très fort sur le secteur. J'accueille bien l'idée, par exemple, qu'il y a des manifs qui se fassent le week-end. À ce moment-là, les gens peuvent s'exprimer. Comme ça, ça ne perturberait pas, par exemple, la vie scolaire. L'avenir d'Haïti, c'est dans nos salles de classe.
Difficile pour les écoles de savoir si elles rouvriront leurs portes à l'issue de la période carnavalesque, mardi, mais aussi mercredi, ayant été déclarés jour férié cette année. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le carnaval qui n'aura pas survécu à la pandémie de Covid au Brésil, privé cette année de sa manifestation à Rio. Les écoles de samba ne défileront pas, Sarah Cozzolino.
À deux pas du Sambodrome, le hangar de l'école de samba Império da Tijuca est bien silencieux pour un mardi de carnaval. Au milieu des chars de l'an dernier, Jordan Pereira est nostalgique.
Quand on arrive et qu'on regarde jusqu'au fond du hangar, on sent une tristesse parce que c'est une partie de notre culture, qu'on y travaille normalement pendant toute l'année.
En charge de la direction rythmique, à cette époque, Jordan serait sollicité de tous les côtés par ses 240 percussionnistes. Mais l'annulation du carnaval allait de soi pour Antonio Telich, président de l'école.
Je pense que maintenir le carnaval aurait été un manque de respect aux victimes de cet ouragan qui est passé dans le monde entier. Ce ne serait pas juste de faire de la samba, de sauter dans tous les sens en s'amusant avec autant de morts.
Près de 70 000 personnes vivent du carnaval, couturiers, menuisiers, sculpteurs, la plupart viennent de quartiers populaires et ont dû faire une croix sur ses revenus cette année. Guilherme Estevan, directeur artistique de l'école, était sans emploi de mars à septembre.
Ici, pour l'Imperio, ça a été très difficile. On a essayé de créer quelques solutions pour minimiser les effets, mais on n'a pas pu garder toute l'équipe, continuer de payer les salaires, parce que l'école n'avait aucune recette.
Les écoles de samba ont distribué des paniers alimentaires aux familles dans le besoin, mais la fin de l'aide d'urgence apportée par l'État est un nouveau coup dur. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
10h23 à Rio, une heure de moins. À Bogota, la Colombie est l'espoir de jours meilleurs, hein, Romain Lemaresquet. Les premières doses de vaccins contre le Covid sont arrivées hier dans le pays.
Oui, un pays qui peut respirer, mais qui ne va pas pour autant célébrer cette annonce, explique en une El Espectador. Hier, 50 000 doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech ont été livrées et reçues avec les honneurs, puisque le président Iván Duque et tout un parterre de responsables officiels étaient présents sur le tarmac de l'aéroport. Discours, musique, drapeau, le tout suivi par les chaînes de télévision, détaille le quotidien. Un moment historique, selon le président colombien. El Espectador tempère cet enthousiasme. Ce ne sont pas les vaccins qui vont sauver des vies, mais la campagne de vaccination massive qui doit être mise en place et qui débutera demain. Et là, la Colombie a du retard, estime le journal, qui compare notamment la campagne de vaccination menée tambour battant au Chili avec la lenteur constatée en Colombie.
La crise sanitaire à laquelle est venue s'ajouter la crise politique en Équateur. Le mouvement indigène annonce le lancement dans les prochaines heures d'une grande marche sur Quito. Ils entendent ainsi les indigènes faire pression sur les autorités électorales pour que leur chef de file, Yacu Pérez, soit qualifié pour le second tour de la présidentielle du 7 février. Cuperes, d'après des résultats quasi définitifs, arrive en troisième position, devancé de très peu par le candidat de la droite, Guillermo Lasso. Tout autre chose, enfin, Romain, une légende qui vient de s'éteindre, légende de la salsa, l'un de ses pères même, Johnny Pacheco.
Oui, musicien, compositeur et producteur Johnny Pacheco, qui était né en 1935 en République dominicaine, est décédé à l'âge de 85 ans hier à New York. C'est lui qui avait notamment fondé le label Fania Records, une maison de disques qui a permis à la salsa de prendre toute sa dimension, détaille le New York Times, et qui a permis à des stars telles que Celia Cruz ou encore Willie Colon de briller. Flûtiste et percussionniste hors pair, il est à l'origine du super groupe Fania All Star. Merci pour votre héritage, peut-on lire dans les pages du quotidien dominicain Diario Libre ce mardi, quotidien qui détaille les nombreux hommages qui lui ont été rendus après l'annonce de son décès, car comme le rappelle El Listín Diario, Johnny Pacheco est certainement à l'origine du développement de la musique latino dans le monde. Pacheco.
Johnny Pacheco qui nous a quitté, cet hommage musical que l'on entend rendu par les plus grands de la salsa new-yorkaise, c'était il y a quelques années à l'occasion de l'un de ses anniversaires. Merci Romain.
Le journal de l'Outre-mer.
Comme chaque jour, pour terminer notre rendez-vous, et c'est avec vous, Oda Najiali, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Et à la une, ce nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme aux Antilles.
Et oui, depuis ce matin, tous les voyageurs doivent justifier d'un motif impérieux pour se déplacer entre la Guadeloupe et la Martinique. Nouvelle restriction donc après la limitation des voyages vers et depuis l'Hexagone. Éric Lefebvre, Guadeloupe la première.
Annoncée samedi, cette nouvelle restriction entre donc en application aujourd'hui. Une décision motivée surtout par l'arrivée du variant anglais, à la fois en Guadeloupe et en Martinique. 5 chez nous, 23 dans l'île sœur, selon le dernier point officiel. Les vacances dans l'une ou l'autre des îles ne sont donc plus de mise. Il faudra à nouveau désormais justifier tout déplacement. Un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme qui comptaient sur le dernier marché encore préservé depuis la mise en place fin janvier de restrictions entre les Antilles et l'Hexagone. Dans un communiqué, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a rappelé les engagements de l'État pour accompagner ce secteur sinistré. 500 millions d'euros alloués à ce jour aux entreprises ultramarines, par le biais notamment d'exonérations de cotisations sociales. Pas sûr que cela suffise à les rassurer.
Éric Lefebvre, et côté pratique, pas d'obligation en revanche pour les voyageurs de présenter un test PCR pour embarquer et pas besoin non plus de s'isoler à leur arrivée. Dans le même temps, la préfecture de Guadeloupe a annoncé le lancement de poursuites après un défilé carnavalesque entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre le week-end dernier. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées dans les rues pour célébrer le dimanche gras, malgré l'interdiction des autorités. Et face à l'interdiction des défilés, justement, les groupes carnavalesque innove, pas de vidée dans les rues, mais des prestations offertes au public. Le groupe à pied Ticadance du Lamantin en Martinique s'est ainsi produit devant les enfants du foyer rural de Roche-Carré. C'était hier, Emmanuel Larade a recueilli les impressions des élèves et des professeurs.
Je me suis bien amusée, mais j'ai dansé, j'ai sauté. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé.
Il y a le carnaval et c'est ça que je préfère.
On s'amuse comme on peut. Mais c'est bien, ça permet aux enfants aussi de profiter.
C'est la culture, même si par rapport au Covid, les manifestations sont un petit peu réduites, mais n'empêche, on a voulu quand même garder l'esprit carnaval. Pendant la semaine, on a travaillé sur les différents jours gras, donc ils sont un petit peu au courant du déroulement du carnaval antillais, quoi. Martinique particulièrement. Non, mais c'est bonne. Philippe, ouais!
Manuel Larade de Martinique, la première. Et puis un mot sur une découverte. Pour terminer, un lézard retrouvé dans les collections du muséum de Bordeaux qui aurait évolué en Guadeloupe il y a 2 siècles. L'espèce aujourd'hui éteinte a fait l'objet de recherches menées par le laboratoire de la préhistoire en Gironde. Très belle journée.
Merci beaucoup Oda Najiali, merci à vous et aux équipes de la première qui referme donc ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se dit à demain.
autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents.